Dialogue entre Congolais à présent avec Alain Rung à la présentation.
Bonsoir. Économie congolaise, selon la Fédération des entreprises du Congo, 2010 est placée sous le signe de l'amélioration du climat des affaires. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour atteindre cet objectif et comment les appliquer? Trois invités prennent part à cet échange. Deux sont avec moi dans ce studio. Il s'agit du professeur Mathias Boabouawakayembe, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et professeur à l'université de Kinshasa et à l'université protestante au Congo. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Délice Sanga, député national MLC et président de la commission politique administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale, également ancien ministre du plan. Bonsoir honorable.
Bonsoir.
Professeur Grégoire Bakandeja, enseignant des finances publiques et de droit des affaires à l'université de Kinshasa et à l'université de Paris 1 Sorbonne et ancien ministre de l'économie et du commerce. Il est en ligne. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. L'année 2010 est placée sous le signe de l'amélioration du climat des affaires en RDC. La déclaration est du président de la Fédération des entreprises du Congo qui s'inspire de la volonté exprimée par le président Joseph Kabila. Pour Albert Yuma, au cours de l'année 2009, la priorité en matière économique a été focalisée sur le climat des affaires. Le gouvernement doit, en 2010, traduire dans le fait le vœu du chef de l'État. Le numéro 1 de l'association patronale s'est ainsi exprimé samedi dernier à Kinshasa lors de l'échange des vœux de nouvel an avec les opérateurs économiques. Plus de détails avec vous, Kevin Côté. Voilà, je disais donc que l'année 2010 est placée sous le signe de l'amélioration du climat des affaires en RDC. La déclaration est du président de la Fédération des entreprises du Congo qui s'inspire de la volonté exprimée par le président Joseph Kabila. Pour Albert Yuma, président de la FEC, au cours de l'année 2009, la priorité en matière économique a été focalisée sur le climat des affaires. Le gouvernement doit pour cela, en 2010, traduire dans le fait le vœu du chef de l'État. Le numéro 1 de l'association patronale s'est ainsi exprimé samedi dernier à Kinshasa lors de l'échange des vœux de nouvel an avec les opérateurs économiques. Plus de détails avec vous, Kevin Côté.
Pour la Fédération des entreprises du Congo, la sécurité juridique et judiciaire est une des conditions pour le retour des investissements productifs en RDC. Beaucoup de choses, cependant, selon la FEC, doivent encore être faites. Mais elle reconnaît des avancées significatives qui ont été enregistrées, entre autres le vote paritaire Assemblée nationale et Sénat le 15 décembre 2009 de la loi portant autorisation de l'adhésion de la RDC à l'OADA. La FEC estime que l'adhésion de notre pays à l'OADA est une mesure essentielle pour rassurer le secteur privé sur une préoccupation capitale, la sécurité juridique. Autre avancée, la prise par le Premier ministre du décret portant création d'un comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RDC. Un objectif louable que la FEC accompagne et encourage. Toutefois, elle insiste sur la concrétisation de ces mesures pour que les opérateurs économiques installés au pays puissent reprendre aussi conscience et redémarrer rapidement leurs activités et créer ainsi la valeur ajoutée locale et des emplois. En tant que porte-voix du secteur privé national, la FEC entend contribuer avec efficacité à l'accomplissement de cette mission afin d'une part de débarrasser la RDC de toutes les pesanteurs nuisibles car ne servant pas les intérêts de l'État mais plutôt des individus et d'autre part de créer les conditions de l'avènement d'un environnement des affaires attractif et encourageant pour les investissements, a ajouté le président de la FEC.
Professeur Mathias Boabois, juste rappeler d'abord que vous êtes directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et professeur à l'université de Kinshasa et à l'université protestante au Congo. Quels sont les mécanismes à mettre en place d'après vous pour atteindre cet objectif qui est l'amélioration du climat des affaires en RDC?
Merci beaucoup pour la question, pour m'avoir invité à prendre part à cette réunion, à cette émission. Je pense qu'il faut commencer par définir le climat des affaires avant de parler de mécanismes pour mettre en œuvre les recommandations du chef de l'État. Donc, le climat des affaires, c'est l'ensemble des facteurs à caractère politique, économique, juridique et judiciaire, réglementaire, infrastructurel, sécuritaire et autres qui font qu'un pays peut paraître comme un site, disons, intéressant, attractif aux yeux des investisseurs étrangers et nationaux. À partir d'une telle définition, on voit que les mécanismes à mettre en place pour, disons, rendre le climat des affaires attractif sont nombreux. Mais je pense que quand on écoute bien le discours de la PEC, et lorsqu'on suit ce qui a été dit lors du discours du chef de l'État au Parlement, il s'agit essentiellement de mesures à caractère réglementaire et juridique. Donc il s'agit de prendre des mesures pour réformer notre système, disons, de création des affaires, des sociétés, notre système de, disons, de mise en place des entreprises dans notre pays pour faciliter tout cela. Donc les mécanismes, dans le cas d'espèce, sont à caractère juridique, c'est-à-dire qu'il faut que les lois soient conçues au gouvernement et puis donc les projets transmis au Parlement qui doit les approuver pour assainir le climat des affaires. Au-delà, bien sûr, des lois qui vont être prises, il se posera le problème de l'applicabilité de ces lois-là dans le concret.
Ce sera d'ailleurs la deuxième partie de cette émission. Honorable Sessanga, vous êtes député national MRC, président de la commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale, également ancien ministre du plan. Le professeur Boisbois dit que l'amélioration du climat des affaires concerne en grande partie des mesures juridiques.
Non, pas en grande partie. Il vous a défini les facteurs qui contribuent à améliorer le climat des affaires. Et parmi ces facteurs, vous avez les facteurs liés au niveau des infrastructures dans le pays, au niveau de la formation de la main-d'œuvre, la qualification de celle-ci. Et les mesures juridiques ne sont qu'une composante, à mon avis, la plus facile à atteindre, parce qu'il suffit simplement de prendre des lois. Et je crois qu'une fois ceci dit, on doit se poser la question pourquoi le climat des affaires dans notre pays doit pouvoir être amélioré. Il doit l'être, ce n'est pas une question qui intéresse simplement les investisseurs, c'est une question qui intéresse les Congolais au premier chef, parce qu'en fait, les Congolais se posent la question de savoir, nous sommes dans une économie qui produit des richesses, et ces richesses, elles vont où ? Comment est-ce que dans ce pays, nous pouvons assurer une production de richesses et une distribution, redistribution de ces richesses à l'ensemble de la population et que chacun puisse trouver le compte pour satisfaire ses besoins ? Et quand on a posé cette question-là, on se dit, le lieu de la création des richesses, c'est le monde économique. Et le monde économique doit non seulement avoir des lois qui sont justes et qui permettent à ce que la créativité trouve sa place, que les investissements puissent venir dans les pays, mais nous devons également encadrer le processus de telle sorte à ce que l'objectif défini même par le chef de l'État, à savoir que cette année est une année du social, puisse trouver un début de solution. Ce que nous remarquons de plus en plus, c'est que derrière le climat des affaires, on veut créer un Congo qui est totalement dédié à une classe de la société, une minorité, et que la majorité ne tire pas profit de toutes ces réformes qui sont accomplies et qui devraient avoir pour destinataire la population, l'amélioration de ses conditions de vie. J'insiste en particulier sur la redistribution de la plus-value qui est dégagée dans les industries. Vous voyez, aujourd'hui, au Parlement, on nous présente une loi sur l'exonération qu'il faut accorder aux industries au motif que ces industries sont en péril. Mais quand on examine au plus près cette loi, ce n'est pas véritablement pour améliorer le climat des affaires. Il y a un état d'esprit au Congo qui veut que pour que les affaires marchent au Congo, il faut que l'opérateur économique puisse être exonéré pratiquement de tout. Comme si le Congo est un endroit où aucune affaire ne peut en réalité prospérer et dégager des marges. Et pourtant, une catégorie de partenaires de l'entreprise, il faut noter que l'entreprise a trois catégories de partenaires. Vous avez les actionnaires, vous avez les salariés et vous avez l'État. Et vous allez voir que dans le processus industriel chez nous, dans le processus économique, les lois que nous prenons vise à favoriser les actionnaires, les propriétaires des entreprises et jamais assurer une juste redistribution des revenus en direction de nos populations. Et cela devient préoccupant parce que derrière le mot climat des affaires, on y met tout. Le Premier ministre a publié hier, et j'entends que l'AFEC s'en félicite, le Premier ministre a publié hier les mesures qui doivent contribuer à cette amélioration du climat des affaires, et parmi ces mesures, je vois une, on dit, on veut supprimer l'autorisation, par exemple, d'exercer les commerces pour les étrangers. En quoi est-ce que cette mesure-là améliore le climat des affaires? Parce que partout au monde, vous ne pouvez pas vous présenter aujourd'hui en France et vous dites, je vais devenir commerçant alors que vous êtes étranger, sans que vous ayez la carte de commerçant étranger. Donc je crois qu'il faut se garder entre l'amélioration du climat des affaires, les lois qu'il faut faire, qui doivent être accompagnées par de politiques en termes d'équipement, en termes de formation de la population, ça c'est une chose, mais une autre chose est de commencer à vouloir faire du Congo ces bassins conventionnels où chacun vient, il tire profit et ils expatrient tous les revenus qu'ils tirent du pays. Et c'est pourquoi dans notre pays, nous continuons à le dire, la pauvreté y est entretenue et elle acquiert des caractères tout à fait endémiques. Plus nous passons des années, plus les gens sont pauvres et ceci est préoccupant. Ça devrait intégrer la problématique du gouvernement d'améliorer le climat des affaires.
Professeur Grégoire Bakan, déjà enseignant des finances publiques et de droit des affaires à l'université de Kinshasa et de Paris 1 Sorbonne, ancien ministre de l'économie et du commerce, décidément, il y a beaucoup de craintes hein, que la recherche de cette amélioration du climat des affaires ne puisse jeter une autre grande confusion.
Monsieur le journaliste, je voudrais de prime abord vous signaler que l'internationalisation des affaires est une donnée croissante qui participe d'ailleurs de la mondialisation économique. Et donc, lorsqu'on doit développer une activité, une entreprise qui se livre par exemple au commerce international, une entreprise étrangère, qu'est-ce qu'elle recherche dans un pays d'accueil? Elle doit d'abord s'assurer, hein, la disponibilité de ses actifs, la protection de son personnel, et à cet effet, elle a besoin des traités et d'autres accords qui permettent une protection de cet investissement parce que ce sont des risques qu'on prend à l'étranger. Dans un deuxième temps, cette entreprise a besoin d'un minimum d'organisation économique dans le pays d'accueil, et s'il existe des accords monétaires, des accords tarifaires et tout ça. Ça permet à l'entreprise d'évoluer dans un cadre où l'application des règles, s'il y a par exemple une volonté d'expansion de son activité, que cette application ne posera pas de problème à un autre pays si on veut développer davantage les activités dans ce pays-là. En troisième lieu, l'entreprise doit quand même voir comment sont traités les investisseurs nationaux dans un pays. Quelles sont les règles de droit privé qui régissent, par exemple, la création d'entreprise. Si on trouve qu'il y a des règles qui sont devenus obsolètes. Par exemple, en matière de création de sociétés, il faut alors s'adapter à la modernité. Alors, la difficulté que nous avons dans le pays, et cela existe depuis très longtemps, c'est que nous avons des textes de loi qui datent de l'époque du roi Léopold II. 1887, par exemple, en ce qui concerne les sociétés, bon, quelques modifications sont intervenues vers les années 65, ensuite, nous avons connu la période de réorganisation où les choses n'étaient pas tout à fait claires. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, puisque le droit de ces sangs-là vient de parler, par exemple, du droit qui doit être reconnu aux étrangers pour exercer le commerce, à cet effet, je voudrais seulement signaler que au Congo, nous n'avons pas souvent la culture de lecture des dispositions. Et on se précipite souvent à signer des choses sans qu'on le sache. Lorsque l'Organisation mondiale du commerce a été créée, à partir des accords de Marrakech, on avait adopté le principe de la liberté de commerce de l'industrie, où il y a parmi les critères donc l'absence de discrimination. On s'est précipité, nous Congolais, à signer, à être membre de l'OMC, et maintenant on se plaint qu'il y a encore des textes à l'intérieur du pays qui interdisent l'exercice du commerce pour les étrangers. Donc, oui, tout ça, c'est dans un flou. Lorsqu'on signe un accord international, on adhère à un traité, c'est ce traité-là qui prime sur le droit national. Et je comprends que pour l'AFEC, le fait, par exemple, que le Congo adhère à l'OADA, fera participer davantage le Congo à l'internationalisation du capital. Ça permettra à la fois et aux Congolais et aux étrangers d'investir, parce que si vous remarquez dans notre pays, qui investissent? Ceux qui investissent, c'est souvent les étrangers. Nous, on n'a pas la culture de prendre des risques, même dans des domaines qui peuvent nous permettre de contribuer davantage à la création de richesses, comme par exemple en agriculture. Nous avons des opérateurs économiques qui se livrent à des petites opérations, et donc le fait d'améliorer le climat des affaires par l'adoption des dispositions comme celle de l'OADA et puis celle que dont vous venez de parler avec le décret du Premier ministre, cela peut permettre d'attirer davantage les gens, parce que notre pays est classé parmi les derniers pays en matière de garantie des investissements dans le monde, pour plusieurs raisons. Alors donc nous devons savoir, même si nous adoptons cet effet-là, nous devons avoir au plan interne, sur le plan administratif, comment nous pouvons faciliter, par exemple, la création des sociétés, faciliter la garantie pour ceux qui se livrent à des affaires, parce que nous avons des lois, les lois qui ne garantissent pas, par exemple, la propriété, nous avons des lois foncières adoptées à l'époque de l'authenticité, bon, qui ne reconnaissent pas la propriété foncière, qui impliquent qu'une entreprise, chaque fois, elle doit, après 25 ans, puisqu'elle doit renouveler la propriété, en même temps payer les lois proportionnelles, ça favorise la corruption.
Merci.
La corruption des fonctionnaires. Voilà ce que je peux dire à ce stade.
Merci, professeur. Professeur Boisbois, décidément, à entendre parler du climat des affaires, hein, on a l'impression que ça ne concerne que les étrangers, pas les Congolais. L'honorable Sessanga parlait de la redistribution des richesses. Apparemment, c'est comme si c'était pour les autres. Hein.
Non, pas du tout. Je crois que le climat des affaires concerne aussi bien les Congolais que les étrangers. Je pense au premier chef, ça concerne les Congolais, parce que les Congolais, ils vivent ici, et je pense que le destin du Congo est intimement lié au destin des Congolais. Donc ce sont eux qui sont concernés par toutes les lois sur la création de sociétés, la protection des investisseurs, etc., etc.
Mais peut-être théoriquement, parce que sur le terrain, ce sont les Indo-Pakistanais, les Libanais qui investissent. On ne voit pas des Congolais émerger dans ce secteur.
Non, mais il faut voir les statistiques. Je pense que les Congolais, quand vous prenez par exemple l'immobilier, bien sûr, si vous êtes au centre-ville, vous aurez l'impression que ce sont les Indo-Pakistanais qui construisent. Mais lorsque vous allez à la cité, à Lingwala, à Bandal, un peu partout, à Goma, vous trouvez que les Congolais sont en train de construire également, ou bien de monter des sociétés également. Donc je voulais dire que la plupart des textes juridiques dans le monde, et la plupart des pays dans le monde, si vous prenez l'exemple de la Chine, des États-Unis, du Canada, de la France, ils sont engagés dans un processus d'attirance des investisseurs étrangers. Donc nous, Congolais, je crois que nous devons, je comprends bien que on veuille voir les Congolais jouer un rôle beaucoup plus important dans les affaires dans notre pays, mais je crois qu'il y a d'autres mécanismes qui peuvent aider à atteindre cet objectif-là que mettre des entraves à l'entrée des étrangers dans le pays. Parce que si vous allez en Afrique du Sud, ils ont mis en place des lois pour favoriser les nationaux, par exemple dans l'obtention des crédits, Black Empowerment, l'obtention de crédits, etc., d'autres facilités, l'obtention du marché de l'État, etc., etc. Mais je pense que si nous mettons des entraves à l'entrée dans notre pays des étrangers, on va paraître comme un pays qui va à l'encontre de l'opinion mondiale, en fait.
Mais on va aller à l'encontre de pays qui ne suivent pas le train de l'évolution. Mais quelles sont les garanties que présente notre pays, par exemple, en matière d'immigration, en matière de contrôle des étrangers?
Bon, en matière d'immigration, disons que nous avons un système d'immigration parmi les plus restrictifs, je crois, du monde, parce que déjà, nos visas sont très chers par rapport à d'autres pays. Le visa congolais est peut-être $200 par rapport au visa de pays voisins qui est de $20. Bon, et puis, ce visa, on ne l'obtient pas facilement. Donc, je crois que nous avons beaucoup de ressources minérales et autres, l'eau, forêt, etc. Il nous faut des capitaux. Il nous faut des capitaux étrangers et nationaux pour traduire ces ressources en richesses réelles. Ça ne sert à rien de dire que nous avons le cuivre, nous avons l'or. quand on ne peut pas le traduire en richesse réelle qui peut profiter à la population. Je crois que la population, l'honorable a dit que tout cela doit avoir des retombées pour la population congolaise, mais la population gagnerait déjà si elle peut avoir la chacun peut avoir la possibilité de créer sa société. De devenir lui-même entrepreneur au lieu d'aller travailler chez quelqu'un d'autre. Si l'État peut faciliter la création de sociétés, il peut faciliter l'obtention de crédits bancaires et d'autres facilités qu'il peut prévoir pour les Congolais, ce serait déjà quelque chose de fait pour les Congolais. Et je pense que tout le système qui est mis en place maintenant tend à créer cet environnement des affaires-là.
Honorable Sessanga, il y a des auditeurs qui nous écrivent, hein, notamment Augustin Mango de Kindu Manyema qui dit « En RDC, c'est chaque année qui devient une année d'espoir et pourtant, il y a des problèmes suite au non-respect des engagements. Il y a toujours des bons textes, des bons projets, des bonnes décisions, mais jamais ou mal appliquées. » Frédéric Douvira au sud qui vous que des discours entendus, mais rien de concret. Le front congolais continue sa descente aux enfers. Parlez moins, il s'adresse à vous, parlez moins, mais agissez plus. Nous attendons les actions concrètes, car trop parler peut tuer. Honorable Sessang.
Oui, je pense qu'il faut dissocier deux problèmes. Moi, je parle comme politique. En effet, personne ne peut promouvoir au Congo une politique qui vise à mettre des obstacles d'entrave à l'investissement. Ça, c'est une chose. Et en plus, il faut dire que historiquement, le Congo a été une terre d'accueil pour les investissements. Pensez à ce qui a été fait sous la colonisation entre 1885 jusqu'à l'époque de l'indépendance. Ce pays accueillait beaucoup d'investisseurs qui venaient de toutes parts avec les meilleures conditions qu'il soit. Mais qu'est-ce que l'on a remarqué ? C'est que la répartition des moyens de production à la veille de la colonisation avait consacré une société totalement inégalitaire. Je suis content de ce que dit le professeur Bobois en ce qui concerne les Congolais qui construisent ici et là, mais la réalité économique, je mettrais au défi, si la Banque centrale pouvait publier la répartition des moyens de production dans ce pays, le contrôle des circuits économiques, vous verrez que les Congolais sont de plus en plus exclus de ces circuits. Et cette question-là doit être intégrée en même temps, peut-être par des lois particulières, par des mécanismes particuliers, dans cette politique visant à améliorer le climat des affaires. Et si les Congolais, dans leur ensemble, disent qu'effectivement, nous adoptons des textes que cela sont mal appliqués, que le franc congolais continue la stabilité du cadre macroéconomique, ainsi de suite, c'est bien parce que effectivement, lorsque l'on est au Congo, quand on prend un certain nombre de lois, un certain nombre de textes que l'on veut plus ou moins respecter, il s'adresse à une minorité, à un groupe d'intérêts particulier, et que ces textes ne s'adressent pas, si vous voulez, dans leur application, dans leur exigence à tout le monde. Je voudrais que, par exemple, en ce qui concerne la production de la richesse, on veut améliorer le climat des affaires parce qu'on veut accroître les richesses qui sont produites au Congo. Mais si ces richesses sont produites, il faut que tous les partenaires qui sont dans les circuits puissent en profiter. Je vous donne un exemple. Nous avons un code minier qui est parmi le plus libéral au monde. Et aujourd'hui, y compris la Banque mondiale qui avait favorisé, qui avait appuyé ce processus visant à adopter ce code minier, on revient sur certains aspects pour dire que ce code, finalement, il y a des aspects qui doivent pouvoir être révisés pour tenir compte des intérêts de la population. Vous savez, quand nous avons eu la crise financière internationale, toutes les entreprises minières au Katanga avaient presque fermé, alors qu'on les a vus pendant une très longue période faire beaucoup de bénéfices, et on n'a pas vu que ces bénéfices ont été répartis de manière équitable avec les populations. Nous avons là affaire à des ressources qui sont épuisables, qui sont des ressources qui vont finir à un moment donné par s'épuiser, et on a peur que le Congo de demain, dans 20 ans, dans 30 ans, ces ressources terminées, tout le monde part, et la richesse qui a été créée est permis à certains de bâtir des empires ailleurs et non pas consolider la situation financière et économique de notre pays. Donc, on n'est pas contre la simplification des procédures, tout ceci, mais on est plutôt préoccupé par le caractère, si vous voulez, un peu particulier, sectariste, exclusif, sectariste des lois qui sont jusqu'à ces jours pris.
On vous l'autorité, c'est vous qui êtes chargé de légiférer.
Vous savez que, par exemple, je vous parlais, la loi sur le code de marché public, c'est un député de l'opposition qui a proposé la loi sur l'expertise nationale, par exemple, que l'expertise nationale soit associée, notamment quand on élabore quand on conduit un certain nombre de projets ici, que dans, à la suite des marchés publics, que les cabinets, que les structures locales soient associées. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons au Parlement, quasiment à l'unanimité entre la majorité et l'opposition, émis des puissantes réserves en ce qui concerne cette loi qui vise à accorder de nouvelles exonérations aux industries dites en péril, parce que ces industries bénéficient déjà des avantages dans le cadre du code des investissements. Quand ils ont fini le code des investissements, on veut les placer dans le cadre d'une autre loi. C'est comme si les entreprises viennent au Congo, demandent toutes les exonérations durant les cycles de production jusqu'à la fin, et quand elles ont fini les cycles industriels pour lesquels elles viennent s'implanter au Congo, elles partent et laissent des trous, des dégâts, et sans que la
population ne se retrouve pas.
Donc ça, c'est notre souci.
Voilà, professeur Bakandeja Robert Baome de Bukavu, ce qui vous dit, tant que l'opacité continue à dominer les déclarations des opérateurs économiques, que la fraude fiscale et douanière ainsi que le combat contre la firme Bivac demeure encore et que persiste l'insécurité, la RDC restera loin d'améliorer le climat des affaires. Aussi, une lutte efficace contre ces fléaux s'impose par la tolérance zéro pour atteindre cet objectif.
Bon, c'est tout à fait vrai. Dans un premier temps, je dois vous dire que lorsqu'on parle de l'amélioration du climat des affaires, on voit à la fois la sécurité physique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la paix dans le pays, on voit la sécurité juridique, c'est-à-dire qu'il y a des gens de cette ère-là, on voit aussi la sécurité judiciaire avec l'application par les tribunaux nationaux de ce texte, transparence, etc. Or, vous savez que le pays a connu beaucoup de difficultés dans ce domaine-là, et au niveau même de sa magistrature, il y a eu beaucoup de dérapages qui ont conduit à des jugements iniques. Par exemple, vous voyez une entreprise qui est condamnée et qui a, par exemple, un capital social de 5 millions de dollars, un équivalent franc-congolais, elle est condamnée à 15 millions de dollars. Et qui la condamne? Ce sont les tribunaux du Congo. Alors comment voulez-vous qu'on puisse faire confiance à une telle justice pour l'application d'une situation légale? Deuxièmement, l'honorable Zessanga a parlé, je crois aussi le prof Bois, des conditions qui sont offertes à des entreprises qui veulent investir en Afrique du Sud. On ne peut pas comparer la situation de l'Afrique du Sud à la nôtre, parce que nous avons connu dès les années 65, il y a eu des lois qui imposaient par exemple à tous ceux qui voulaient venir investir au Congo, de faire participer des Congolais à la gestion de ces entreprises. Mais vous savez bien que qui sont Congolais qui sont allés participer à la gestion, ce sont des politiques. Alors vous savez, un politique, c'est pas un homme d'affaires. Le politique a d'autres préoccupations, et nous sommes arrivés finalement à voir des sociétés qui n'ont pas pu fonctionner parce qu'elles étaient couvertes. Deuxièmement, l'absence d'une politique prudentielle en matière économique et monétaire pour contrôler les activités des sociétés qui opèrent ici, sociétés qui bénéficient de beaucoup d'avantages de l'État, mais qui veulent les perpétuer, mais qui avaient toujours la complicité des Congolais eux-mêmes. Donc il y a un examen de conscience qu'on doit faire à notre propre niveau pour éviter qu'à l'avenir, que nous retombions toujours dans le même traquenard. Dans la plupart des pays, il y a toujours des nationaux qui prennent des risques. Et ces nationaux ne doivent pas compter sur l'État. Les nationaux doivent compter sur un système bancaire permettant d'octroyer de crédit. C'est bien que les Français maintenant commencent à investir dans l'immobilier parce que ça peut conseiller des garanties pour les banques qui leur octroient des crédits. Mais si on compte sur l'État, avec les moyens limités de l'État, on ne pourra pas s'en sortir. Donc il faut un système bancaire efficace. Et si demain, par exemple, avec les garanties que peut présenter les gens, on a une bourse de valeur mobilière, et on verrait des Congolais qui s'associent. Les Congolais ont des moyens, mais ils n'ont pas la culture d'entreprise. C'est chacun qui veut opérer individuellement, et lorsqu'on opère individuellement, on tombe vite en faillite. Malheureusement, la faillite au Congo n'est pas organisée, les entreprises qui tombent en faillite, bon, sont considérées comme étant des entreprises qui continuent à fonctionner, alors que nous avons des droits modernes qui permettent de maintenir en activité une entreprise qui est sous la menace de la faillite. Et ça, le cadre comme celui de l'OADA permet de maintenir ces entreprises en difficulté pour les chercher les moyens à ne pas les voir sombrer, parce que si elles sombrent, c'est l'activité économique qui est réduite, et en ce moment-là, l'État aussi va perdre en termes de fiscalité à appliquer sur les activités de ces entreprises. Donc il y a tout un travail qu'il faut faire, mais on se précipite souvent au Congo à agir très vite parce qu'il y a la pression, alors qu'il y a des préalables qu'il faut remplir.
Merci professeur. Créer une entreprise en RDC pourrait prendre moins de 3 jours par rapport à ce qui se fait actuellement, surtout dans l'obtention d'un numéro de registre de commerce qui prend généralement plus d'un trimestre. C'est ce qu'a dit le ministre du Budget à l'issue de la réunion qu'a présidée le Premier ministre hier mardi à l'intention des ministres du secteur économique. Cette réunion portait sur l'évaluation de l'amélioration du climat des affaires en RDC, une évaluation jugée positive par rapport à certaines lois que le gouvernement a proposé au Parlement, notamment l'adhésion de la RDC à l'OADA, la protection des industries locales et même la loi sur les marchés publics qui est actuellement en discussion au Parlement. Qu'est-ce qui reste à faire pour améliorer réellement le climat des affaires en RDC? Michel Lokola, ministre du Budget, répond à Berry Franklin Lutchakra.
Maintenant, nous sommes en train de nous battre sur le plan administratif de façon à simplifier toutes les procédures en matière d'investissement. Je crois qu'il faut aussi aller un peu plus loin jusqu'à limiter le nombre de taxes qui sont perçues par un service, de façon à ce que nous puissions avoir un système fiscal et parafiscal simplifié. C'est dans ce cas d'ailleurs que vous allez voir, que nous allons avoir même la taxe sur la valeur ajoutée, qui va remplacer aujourd'hui l'impôt sur les chiffres d'affaires, qui est un impôt un peu chiant dans ce sens que il faut non seulement introduire sa déclaration à l'administration fiscale, payer un acompte et payer le solde d'après. Donc tout ça, ça prend du temps à un opérateur économique. Et la TVA sera un impôt à rendement fiscal très élevé et très simple à percevoir.
Professeur Bois, créer une entreprise en RDC, ça prendra bientôt moins de 3 jours. Mais la FEC, dans son discours à travers son président, a par exemple dénoncé le chevauchement des compétences entre l'administration centrale et provinciale, la confusion même dans l'application de certaines dispositions légales.
Merci beaucoup. Je pense que à partir du moment où on a mis en place la décentralisation, avec une cession de compétences, une cession de moyens, et également une possibilité laissée aux entités territoriales de pouvoir chercher aussi leurs moyens propres, on va certainement arriver à une situation qui mériterait que aussi bien le pouvoir central que les autorités décentralisées se mettent en place pour définir bien les choses. Donc je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas suivi ce qui se fait au Parlement, si les lois en la matière ont permis de bien définir ce que chacun peut faire, mais je crois que c'est un travail qui mériterait d'être fait pour l'avenir, pour éviter que sur une matière imposable, l'État puisse percevoir, également les autorités de la base puissent chercher à percevoir. Mais en ce qui concerne la création de sociétés dans notre pays, ou bien des entreprises dans notre pays, en fait, ce qui posait problème jusqu'ici, ce n'était pas l'acte d'immatriculation au registre du commerce tel quel. C'était les préalables qu'il fallait remplir avant d'aller au greffe du tribunal de commerce. Plusieurs documents qu'il fallait amener, attestation non fonctionnelle, attestation de ceci, attestation de résidence. Ça prenait beaucoup de temps avant d'arriver à l'immatriculation. Généralement, l'immatriculation, ça prenait 5, 10 ou 20 jours. Maintenant, la loi qui a été adoptée au Parlement a prévu que cela se fasse tout au plus dans 5 jours, tout au plus. Donc, ça peut se faire en 1 jour ou 2 jours, mais tout au plus. Ça ne va pas au maximum, ça ne peut pas dépasser 5 jours. Mais je crois que il y a d'autres formalités qui restent. Il y a, par exemple, l'identification nationale qui reste et d'autres formalités qui restent. On devrait déblayer suffisamment le terrain pour arriver à ce qu'une société, une entreprise soit créée chez nous. Déjà, le fait qu'on a supprimé l'autorisation présidentielle, ça permettra de gagner beaucoup de temps pour les sociétés par action à responsabilité limitée, par exemple les banques, les sociétés de télécommunications, tout ça, qui pourront être créées, disons, d'une manière tout à fait sereine dans l'avenir.
Mais le professeur Bakandeja a attiré notre attention sur une certaine précipitation qui est manifeste en ce qui concerne les innovations, mais après on se rend compte qu'on s'est fourvoyé quelque part.
Bon, écoutez, je pense quand même que nous avons des modèles. Donc, on ne part pas du néant, de zéro. On a des modèles. Ce sont des modèles qui sont appliqués déjà dans d'autres pays, qui marchent très bien. L'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Sénégal, le Nigeria, etc. Donc, je crois qu'imiter les autres, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de courage. Imiter les autres pour pouvoir brûler les étapes, aller vite en besogne, je crois que c'est une bonne chose.
Alors, professeur, on aborde directement la deuxième partie avant de donner la parole à l'honorable Sessang. Comment appliquer tous ces mécanismes, parce que c'est l'application, en fait, qui est le grand problème.
Bon, l'application pose problème, mais je crois que la législation également est un élément de blocage. S'il y a plusieurs lois appliquées, il est certain que les administrations appelées à les mettre en œuvre peuvent ne pas se retrouver dans cette mise en œuvre. Lorsqu'on a déblayé le terrain, on peut être en restant seulement avec des formalités réduites, on peut être certain que les administrations pourront les appliquer. Évidemment, là, on tombe dans le problème de tous les jours dans notre pays. Il y a des administrations dans les aéroports et le port, il y a des administrations, il y a la justice qui est là, etc. Ce sera toujours ce problème de tolérance zéro, d'application des lois et de punition des personnes qui ne veulent pas appliquer ces lois-là. Mais on pourra quand même, étant donné qu'on aura réduit les formalités, je pense que l'opérateur économique, la population, pourra quand même souffler un peu.
Honorable Sessanga, vous répondez également à la question sur l'application de ces mécanismes. En plus, il y a des auditeurs, Janine de Bandundouville, l'assainissement du cadre des affaires, est-ce une affaire de l'AFEC ou du gouvernement ou du chef de l'État qu'il a annoncé lors de son dernier discours à la Nation? L'AFEC a-t-elle un jour proposé des réformes législatives ou émet-elle seulement des constats sur le fonctionnement? Ya Mukili de Kasongo Manyema, nous qui sommes à l'intérieur, nous risquons de ne pas sentir les effets de cette amélioration du climat des affaires car il n'y a pas de route, les moyens de transport sont inexistants.
Oui, justement, le dernier auditeur touche au point. Je suis de ceux qui considèrent que les réformes législatives et réglementaires sont une chose importante. Il faut simplifier, il faut moderniser la législation, c'est un fait. Mais ce seul fait ne suffit pas. La crainte que nous avons souvent dans notre pays, c'est de voir que les autorités risquent de rejeter sous la seule législation les mesures réglementaires l'aboutissement de toute la réforme. La réforme implique que au départ, il y a d'autres facteurs qui sont mis en mouvement. J'ai parlé, il y a des secteurs économiques pour lesquels, pour investir dans un pays, il ne suffit pas simplement d'avoir la législation qui soit attractive, il faut encore trouver la main-d'œuvre qui est qualifiée. Si les gens vont en Chine aujourd'hui, entre autres, c'est parce que vous trouvez une main-d'œuvre disciplinée, qualifiée dans certains secteurs de pointe. Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir réfléchir vers cela? Lorsque nous parlons de l'attrait des investisseurs ici, nous réfléchissons toujours comme à l'époque de la colonie. On attend les investisseurs dans les secteurs primaires, les mines, l'agriculture, ainsi de suite. Dans le secteur des services, par exemple, on peut, par rapport à l'internationalisation qui s'est faite aujourd'hui, il y a des pays, par exemple, avec le centre d'appel. Des centres d'appel, qui est un segment de métier nouveau dans le tertiaire, où vous pouvez développer des compétences et des sociétés, créer des richesses dans votre pays pour ce qui s'est fait à l'étranger. On l'a vu au Sénégal, on l'a vu en Tunisie et dans d'autres pays, en Inde.
Mais ailleurs, mais pourquoi ça ne s'applique pas ici?
Ben oui, mais c'est ça justement la question que pose l'auditeur. C'est que le gouvernement devrait aussi, en améliorant le climat des affaires, essayer de se concentrer sur ces autres facteurs-là, l'infrastructure et la formation des gens pour attirer les investisseurs. Parce que quand vous avez fini de faire les lois, de faire les règlements, même s'ils sont les plus beaux et les mieux du monde, si vous avez la guerre chez vous, aucun investisseur ne viendra. Si vous avez une justice qui est corrompue, comme c'est le cas et qui ne tourne pas, personne ne viendra parce qu'il ne prendra pas de risque. Si vous n'avez pas une administration qui est à niveau, Lorsque nous avons eu le débat, par exemple, sur l'adhésion à l'OADA, nous avons beaucoup insisté, parce que moi-même, je suis un partisan de l'OADA, nous avons beaucoup insisté sur la dimension préparation. Mais j'ai l'impression que cette dimension est sacrifiée à la solennité de l'adhésion à l'OADA. Tout le monde est content qu'on adhère à l'OADA. Mais personne ne prend le temps, par exemple, de se dire, pour pouvoir appliquer ce droit, il faut que l'on puisse former des Congolais, que nos magistrats soient formés, parce qu'il n'y a pas que la Cour commune de justice et d'arbitrage qui aura à appliquer le droit OADA. Nos juridictions auront également à l'appliquer. Donc, je pense que c'est un problème global qu'il faut prendre dans sa globalité et qui doit être basé sur une vision économique nouvelle, insérant le Congo dans sa modernité, c'est-à-dire au niveau international globalisé, et disant comment est-ce qu'au Congo nous allons produire des richesses et les répartir entre les Congolais, et en rémunérant tout aussi ceux qui prennent les risques comme investisseurs dans notre pays, sans oublier l'État qui accomplit un certain nombre de missions. Cette réflexion, à ce jour, elle est totalement absente, et donc on est là en train, comme le dit le prof Bakan déjà, dans la précipitation, on prend telle mesure, mesurette, etc. Vous avez suivi le DG de la NAPI, le prof Bourbon, il vous dit effectivement, par exemple, à ce qui très rapidement, l'immatriculation, ce n'est pas les 5 jours qui posent problème, mais c'est toutes les procédures en amont. Mais qu'est-ce que le gouvernement ? Il nous amène une proposition où on dit c'est dans les 5 jours, comme si les 5 jours suffisaient, mais tout ce qui concerne l'identité, l'identification nationale, les procédures qu'on fait dans les mairies et tout ça, est laissé à l'État. Merci. Donc pourquoi nous appelons à une vision globale en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires.
Professeur Bakan, déjà, il y a Jean de Kinshasa qui dit « Je constate que l'amélioration du climat des affaires ne pourra pas assouplir les mesures, surtout en matière d'octroi des visas. Il y a même des étrangers qui vendent des beignets, des oignons et au détail. » Qu'est-ce que vous en dites, professeur ? Brièvement, parce que nous tendons vers la fin de l'émission.
Oui, je comprends tout à fait. Vous savez, l'amélioration du climat des affaires ne se limite pas simplement au développement du secteur primaire, comme vient de le dire l'honorable M. Sanga. Les Congolais, lorsqu'on parle de l'investissement, on voit seulement l'investissement dans les mines. Or, on sait dans le monde aujourd'hui que le commerce international des marchandises ne représente qu'à peu près 30% du commerce international au niveau mondial. Donc il y a le tertiaire, dans les banques, dans l'hôtellerie, etc. Partout là, les gens doivent investir. Bon, je ne reviendrai pas sur la question sécuritaire, etc., mais il faut une vision globale. Alors, la difficulté avec notre législation, c'est que lorsque le Parlement adopte des lois, on a souvent l'impression qu'au niveau du Parlement, on veut tout déjà appliquer la loi à partir du Parlement, alors que la loi ne pose que des principes, il faut des mesures d'application. Le fait qu'au Congo, une loi qui est adoptée par le Parlement est appliquée directement, sans qu'il y ait des mesures d'application qui impliquent une collaboration entre les administrations concernées. Et si on y ajoute les questions liées à la décentralisation, donc c'est qu'on fait à Kinshasa, à l'intérieur, il y a des ministres provinciaux qui font le contraire, qui prennent des édits, on se retrouve là dans une situation de désordre. Donc ça va être réglé en amont avant que l'opérateur concerné puisse créer son entreprise. Je crois que le droit du sang a été même très bon en disant qu'on peut faire 3-4 jours pour créer une entreprise au Congo. Mais c'est plus que ça, ça fait près 150 à 156 jours pour créer une entreprise. Alors vous voyez, toutes ces tracasseries-là avec les administrations, où il y a la corruption toujours, tout ça, ça ne nous met pas en situation devant permettre d'avoir une vision globale. Donc il faut un dialogue permanent avec les acteurs concernés, il faut former les magistrats, il faut les sensibiliser.
Merci aux beaucoup, actes
et uniformes qui vont être mis en place. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire en très peu de temps et appliquer de manière mécanique.
Merci professeur Bois, il nous reste moins d'une minute pour terminer cette émission. Votre conclusion en 20 secondes.
Non, mais la conclusion, c'est un message d'espoir que j'adresse à la population, parce que vous savez que le Congo est sur la voie de la relance de son économie. Et donc, j'invite tous les Congolais de pouvoir participer à ce mouvement qui est en train de se mettre en place.
Honorable Sessang, à votre conclusion également.
Ben, c'est le même appel, sauf que nous appelons les Congolais à être vigilants pour que la répartition des richesses dans ce pays un jour fasse cesser la pauvreté, parce que ça, c'est un scandale.
Cette émission est terminée. Guy Maté, Kevin Kouti, Maombi Mukomia l'ont préparée. Guy Manzango, la mise en monde, et Benka Bamba l'a coordonnée. Alain Irung vous la présentez. Au revoir et à demain.